tous et bienvenue à la 9e édition des goûters de Kartala. Les goûters de Kartala, c'est un événement qu'on a initié à partir de janvier 2018 quand on a rénové la librairie des éditions Kartala. Donc pour présenter rapidement le principe des goûters, en fait c'est l'idée de faire rencontrer des chercheurs et un public, sachant qu'il y a quand même très peu lieu aujourd'hui pour le faire. En tout cas, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent, heureusement, mais en tout cas à l'époque, c'est vrai que c'était pas aussi populaire que maintenant. L'idée aussi, c'est de continuer à prolonger notre travail en tant que maison d'édition, c'est-à-dire on publie sur des sujets qui sont relativement d'actualité, et l'idée c'était voilà, de proposer des rencontres autour de ces sujets de prédilection qu'on a depuis 1980 maintenant. On publie depuis longtemps sur l'Algérie. Depuis très longtemps, donc à un moment donné, quand on a vu que le mouvement était en train de partir, on est très heureux, on s'est dit qu'on allait organiser cette petite rencontre. Donc on est très heureux de recevoir deux chercheurs publiés par notre maison, qui vont réagir sur les derniers événements. Donc Emmanuel Alcaraz, qui est historien, spécialiste de l'histoire de la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne, ce qui lui permet entre autres d'explorer les imaginaires sociaux de la société algérienne. Donc il est aussi contributeur régulier du quotidien d'Oran et de la revue Mémoire en jeu. Donc son premier livre, je fais un peu de pub, est paru il y a un an et demi chez Kartala. Il s'appelle « Les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne ». Salim Chena est politiste, spécialiste de la question des migrations sur le territoire algérien, notamment les retours des Algériens après les expulsions d'Europe et les migrants transsahariens. Il est aussi membre fondateur de la revue Dynamique Internationale et son livre « Les traversées migratoires dans l'Algérie contemporaine » est paru il y a 3 ans à Kartala. Et enfin, nous sommes très heureux que Sabrina Kassai ait accepté notre invitation à modérer le débat aujourd'hui. Elle est journaliste à Mediapart, elle revient tout juste d'Alger, et d'ailleurs elle vient de publier un article que vous pouvez lire sur Mediapart, que pour les abonnés, sur la façon dont les féministes essayent aujourd'hui d'inclure les femmes dans les mouvements de contestation et revendiquent des nouveaux droits. Mais elle est aussi romancière, et je vous conseille de lire son premier roman, édité aux éditions Emmanuel Colas, qui s'appelle Magic Babel Wed, où on découvre avec beaucoup d'humour et de manière très incarnée l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Sabrina, pour un petit résumé des événements.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de modérer cette rencontre. Oui, pour commencer, Jeannie m'a demandé de donner quelques repères sur ce soulèvement. Donc, depuis le mois de mai, on sait que Bouteflika voulait se présenter pour une 5e candidature. Mais c'était un peu flou, on savait qu'il était malade, donc à un moment on a pensé que ça pouvait être reporté. Et puis finalement, le 10 février, il y a l'annonce de sa candidature. Et les gens, déjà dans l'opposition, les gens sont très mécontents. Il y a le mouvement Mouattana qui se crée pour contester ce 5e mandat. Et puis des appels un peu partout pour manifester. Mais ça ne prend pas. Au départ, et surtout à Alger, qui est très surveillé. Donc il y a des petits mouvements, mais c'est sporadique. Et le 22 février, vraiment à la surprise générale, le mouvement prend. À Alger, mais dans beaucoup d'autres villes aussi. Avec beaucoup de jeunes, donc on parle beaucoup de ces jeunes autour des stades. Hein, la chanson populaire sur la Casa del Moradilla, hein, qui vient d'un stade de foot. Donc à la fois c'est très inattendu, mais c'est pas spontané. La contestation est là, il y avait déjà le mouvement Barakat pour le 4e mandat qui s'était fait entendre, mais c'était pas des mouvements populaires. À partir du 22 février, les manifestations vont se multiplier partout sur le territoire. Alors, il y a une sorte de petit rituel. En jour de semaine, ce sont les étudiants, un jour, et puis les différentes corporations, les professeurs, les juges. La grande surprise de tous. Enfin, il y a différentes corporations comme ça qui manifestent. Et le vendredi, c'est la manifestation unitaire où tout le monde en fait se rassemble pour demander au régime de dégager. Et ça depuis le 22 février. Donc au départ, le pouvoir fait la sourde oreille. Tout va très bien, et puis au bout d'un moment, quand même, en fait, le 1er mars, il y a un moment de bascule. C'est au moment où les candidats devaient déposer leur candidature au Conseil constitutionnel. Je vous passe la séquence Rachid Nekaz, parce que ça, c'est assez drôle, mais enfin bon, voilà. Donc on apprend que Bouteflika a déposé sa candidature. Et là, le soir même, il y a d'immenses manifestations partout, à Alger et dans d'autres villes. La séquence d'après, c'est le 11 mars, parce que quand même, ils se rendent compte que ça passe pas. Et donc, Bouteflika, via un communiqué, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2012, hein, on l'a plus entendu. Donc, via un communiqué le 11 mars, il annonce que il ne briguera pas un cinquième mandat et qu'il va engager une série de réformes pour engager donc une transition démocratique. Et là, pareil, la rue lui répond. Non, merci, on n'y croit pas. Donc les manifs continuent. Alors là, ils font une chose assez étonnante. Comme il y a beaucoup d'étudiants, ils anticipent les vacances. Comme ça, du jour au lendemain, ils sont c'est bon, partez, rentrez chez vous. Alors on craint que les manifs refluent, mais en fait, non. Ça continue de plus belle. En fait, les Algériens, c'était Fela qui disait, sont tous des mécanos, mais là, non, c'est tous devenus des politiciens. Et maintenant, depuis peu, des constitutionnalistes. Parce que dans la rue, tout le monde parlait. Alors, l'article 102, et le 7, et le 8, et le 27. Et le... Bon. C'est vraiment passionnant. Il y a vraiment une renaissance de la citoyenneté. Les gens n'ont plus peur. Ils se photographient, ils se filment, ils s'exposent. Ce qui est vraiment inattendu. Et aussi, ce que les gens me disaient, étaient très surpris, c'est que quand même, c'est un pays qui était très fliqué. Et quand les gens se réunissaient dans la rue, ou dans les parcs, au bout de 10 minutes, ils se faisaient embarquer. Et là, c'est plus possible, en fait. Donc, ça se multiplie. Il y a des agoras, c'est génial, dans les parcs, à la Grande Poste, quasiment tous les jours, même sur des sujets qui sont un peu éloignés du régime, hein, contre la souffrance animale, ou voilà. Vraiment, c'est une renaissance citoyenne incroyable. Donc, la date d'après, donc ça continue comme ça, des manifs, et le 26 mars, le chef d'état-major, Gaït Salah, tape sur la table et demande que l'article 102 soit enclenché, qui prévoit la destitution donc, du président pour des raisons médicales. Alors, ça crée beaucoup de troubles parce que lui, c'est vraiment une pièce maîtresse hein, sur l'échiquier politique, qui a toujours soutenu Bouteflika, qui a validé en fait, la violation de la Constitution à plusieurs reprises, notamment pour qu'il puisse se représenter les deux dernières fois. Mais bon, en même temps, c'est ce que demandaient les gens avant. Hein. Depuis longtemps, les gens demandaient que soit appliqué l'article 102. Mais quand c'est Gaït Salah qui le propose, bon, bah, ça crée vraiment un moment de flottement. À partir de ce moment-là, il y a une guerre des clans aussi qui se manifeste. Ali Haddad, qui était le patron, donc c'est un richissime homme d'affaires, qui était très proche du clan présidentiel de Saïd Bouteflika, donc le frère de l'ombre, hein, qui dirige un peu tout. Donc lui se fait arrêter à la frontière tunisienne. On dit qu'il avait même des valises d'argent. Enfin bon, c'est assez mystérieux. Bon, là, il est en détention. Donc il y a voilà, une guerre des clans qui se met en place. Et Gaït Salah, à plusieurs reprises, à deux reprises, voilà, tape le point sur la table pour demander l'application de l'article 102. Et donc le 1er avril, Bouteflika annonce sa démission. Avant le 28 avril. Donc il dit avant la fin du quatrième mandat. Hein, 28 avril, c'était la date officielle. Il dit avant le 28 avril, je vais démissionner et entre-temps, je vais engager quelques réformes. Et là, la rue lui dit non, merci. Tu veux gagner du temps, ça ne nous intéresse pas. Il va y avoir encore un verrouillage politique. Donc, les manifs continuent. Et là, de jour et de nuit, hein, c'est permanent. En Algérie, les gens sont un peu sur les nerfs hein, parce qu'à force de manifester. Et voilà, la guerre des clans continue. On parle de nouveau de l'ancien chef des services, Toufik, qui se rapprocherait de nouveau des frères Bouteflika. Enfin, c'est très, très obscur à ce moment-là. Donc entre la pression de la rue qui demande toujours le départ de Bouteflika et le chef d'état-major qui demande l'application de l'article 102, Bouteflika est un peu pris en tenaille. Et là, le 2 avril, il lâche et donc il annonce qu'il démissionne. Et de nouveau, on le voit, parce qu'il y a même certains qui pensaient qu'il était mort. Et non, en fait, il ne l'est pas. Il démissionne. Les frères Bouteflika, le 4 avril, sont assignés à résidence. Donc vraiment là, ça commence un petit peu à craquer de tous les côtés. Le seul, en fait, qui tient pour l'instant, c'est le chef de l'état-major, Gaït Salah. Et donc, hier, 5 avril, de nouveau, grande manif où, en fait, ce qui en ressort, c'est que les gens ne veulent pas des 3B, 3 ou 4B. Donc, les 3B, parce que si on reste, en fait, si on respecte la Constitution, personne ne la respecte, mais bon, si on devait la respecter, on va dire, normalement, une fois que le président démissionne, c'est le chef du Sénat, Ben Salah, donc un des premiers B, qui devrait assurer l'intérim. Mais les gens n'en veulent pas, parce que lui, il fait partie du régime. Il y a Bédoui, qui est le Premier ministre, qui... Ah oui, parce qu'il y a une des dates que je n'ai pas données, parce qu'ils ont reformé un gouvernement, comme ça, le dimanche 30, en gardant donc Bédoui comme Premier ministre. Et donc, lui, pareil, très proche de Bouteflika, donc c'est le deuxième B, ils n'en veulent pas. On a Belaïz qui lui aussi, peut-être qu'il était parti en vacances, donc le chef du Conseil constitutionnel qui devait activer l'article 102, qu'il l'a pas fait. Donc là, lui aussi, avec la démission de Bouteflika, normalement, devrait rester en fait pour gérer la transition, mais les gens n'en veulent pas. Et puis le quatrième B, c'est Bouchareb qui est qui préside l'Assemblée nationale, qui est le coordinateur du FLN. Donc là, en fait, ce que les gens disent, c'est que l'ancien régime, on n'en veut pas. On va avoir cette discussion tout à l'heure sur les scénarios possibles. Toute la question, encore, en tout cas à court terme, c'est est-ce qu'on engage la transition sous la houlette de Gaït Salah, le chef de l'état-major, qui maintenant est devenu l'homme fort, d'autant plus que hier il y a eu aussi des réorganisations avec le chef de la sécurité des services spéciaux qui est dorénavant sous la houlette du ministère de la Défense. Donc on va dire que Gaït Salah est l'homme fort aujourd'hui. Alors, est-ce que lui va pouvoir mettre en place une transition démocratique ou il va falloir qu'il retourne dans sa caserne et laisser le jeu politique se faire. Et donc on discutera des différents scénarios tout à l'heure. Bon. Je vous ai dressé un petit peu le déroulé depuis le 22. On va pouvoir commencer. Emmanuel Alcaraz qui s'ennuie. Il a sorti son journal. Donc on va commencer avec vous. Lieu de mémoire. Vous expliquez comment les lieux de mémoire et plus largement la construction officielle de la mémoire de la guerre a participé en tout cas au processus de légitimation du pouvoir algérien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment en fait cet édifice idéologique s'est écroulé ou est en train de s'écrouler?
L'édifice idéologique, enfin, il y a deux choses. C'est la mémoire officielle, en fait, l'instrumentalisation politique de cette mémoire par le pouvoir qui a toujours en fait été contestée. Il suffit de voir, par exemple, les principaux lieux de mémoire à Alger, à Riyad El Fayt, où se trouve le musée central de l'armée, le Makam Al-Shahid, où il y a le musée national du Moudjahed. Ils sont très peu visités parce que toute la société sait très bien qu'il y a des mensonges. Par exemple, on va mettre comme mensonge officiel Aban Ramdam, qui a été assassiné, tué par les Français, alors qu'il a été victime de luttes internes. Donc il y a toujours des mensonges officiels. Là, la société le sait. Et donc ce qu'elle conteste, enfin... Et le mouvement social conteste, c'est cette confiscation de la mémoire à des fins de légitimation par le régime. Mais le peuple a un profond respect pour les martyrs et cherche à se réapproprier cette mémoire. Il suffit de le voir pendant les mouvements sociaux où vous avez les portraits des dirigeants historiques du FLN, du Front de Libération Nationale, qui sont arborés par la population. Parmi le FFS, par exemple, s'estime, se présente, le Front des Forces Socialistes, qui était le parti d'Aït Ahmed, revendique aussi une légitimité historique. Enfin, tous ces... même les dirigeants de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Bouchachi, se présente comme un fils de Chaïd, donc pour montrer sa légitimité dans l'espace public, même les opposants se présentent encore comme des enfants de martyrs. Donc il y a plutôt une réappropriation d'une mémoire qui a été confisquée par le régime, mais ça reste quand même le logiciel commun au cœur des valeurs centrales de cohésion de la société algérienne.
D'accord. Et je voulais aussi vous poser la question, si est-ce que vous avez été étonné par ce soulèvement?
Alors, c'est où peut-être un point de différence avec votre analyse, c'est sur le caractère spontané. C'est vrai qu'en 2014, vous l'avez dit justement, il y avait ce mouvement Barakat, où il y avait plutôt des intellectuels, des journalistes, je pense, qui étaient dans ce mouvement, Mustapha Ben Foddine, Del Watan, des artistes, des hommes de théâtre, des intellectuels, quelques militants aussi du MDS, du Parti communiste, l'héritier du parti du Pax, du Parti communiste algérien, quelques trotskistes algériens qui ont pu aussi activer, militer dans ce mouvement. Mais en fait, pour moi, il n'est pas tellement. Il y a eu quand même aussi le jeu des services pour essayer en fait de susciter une crise. Hein. Soyons clairs, il y avait des divisions profondes au sein du régime algérien. Et pour moi, il y avait deux clans militaro-civils qui étaient au cœur de la crise de succession qui s'est jouée, à savoir le général Gaïd Salah, avec un ensemble de généraux, les généraux qui sont à la tête des régions militaires en Algérie, qui avaient plutôt été privilégiés sous la période Bouteflika. Et le deuxième clan, c'est ce qui reste en fait des généraux éradicateurs qui avaient géré la crise de la guerre civile algérienne pendant les années 90, à savoir le général Médienne. Et entre ces deux clans, il y a eu des luttes. Comme le clan Médienne était un peu ce qu'on appelait la sécurité militaire, le DRS, enfin on va dire les services qui sont finalement peut-être la colonne vertébrale du régime, ils étaient quand même un petit peu en perte de vitesse, et ils ont cherché, notamment via les réseaux sociaux, à manipuler l'opinion publique pour susciter cette crise. Il y avait certes des mouvements locaux. Tous les jours, il y avait aussi des manifestations contre les difficultés de la vie quotidienne, avec des routes qui étaient bloquées. Il y avait des mouvements de chômeurs. Il y avait aussi des manifestations contre le gaz de schiste dans le sud. Enfin, il y avait certes des mouvements de contestation qui étaient forts, mais pas organisés. Mais ce sont paradoxalement, pour moi, les services ont pu jouer un rôle pour que cette effervescence, pour créer cette ébullition, pour essayer de revenir. Je l'interprète comme ça. Il y a eu une crise de succession, et mon hypothèse, quand je vois la rencontre entre Saïd Bouteflika et le général Médienne, et c'est grâce finalement au général Zeroual, grâce au général Zeroual qui est allé informer Gaïd Salah de cette manipulation, que ça a pu s'arrêter, parce que sinon on pouvait entrer dans une très grave crise de régime, avec un scénario à la syrienne, avec deux clans où le pays, comme en Libye, vraiment entrer dans un processus de guerre civile très dangereux pour la stabilité algérienne. Et c'est le général Zeroual qui a quand même permis d'éviter cela. Oui.
Bon, avant de passer à la transition, Salim Chena, alors est-ce que vous pensez que le mouvement a été manipulé par les services, ou c'est un mouvement qui vient, on l'appelle le Hirak, un mouvement populaire qui vient du peuple qui en a marre?
J'ai pas d'informations particulières sur ce sujet-là, mais ce serait pas étonnant non plus. L'analyse me semble pas complètement injustifiée. Il y a certainement, parmi les manifestants, des gens un peu partagés, qui viennent là très spontanément, qui sont mobilisés au niveau du quartier ou de la ville, et peut-être d'autres qui sont là pour... Hein, j'évoquais tout à l'heure ce fameux portrait de Zeroual qui est sorti de nulle part et qui a été accroché en pleine manifestation à Alger. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment quelque chose, une initiative personnelle et autonome. Donc, c'est loin d'être impossible.
Et du coup, est-ce que, oui, vous avez été étonné ou non par ce soulèvement?
Il n'était pas inattendu. Ça a couvé depuis très longtemps. Moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est l'ampleur, la mobilisation populaire, les manifestations dès le départ. Une des premières manifestations à Kharata, elle était déjà très grande. Et partout encore. Et il y avait Khenchela, le petit épisode de Khenchela aussi. C'est ça, et c'est aussi l'ampleur géographique. Ça manifeste partout, y compris à El-Oued, y compris dans le sud, hein, qui se mobilise déjà depuis plusieurs années, comme ça a été dit. Maintenant, il y avait quand même largement des signes avant-coureurs. Il y avait déjà des histoires de révolte, hein, le printemps berbère, 88, qui est là aussi assez ambigu, le printemps noir, et je voudrais rappeler qu'en 2010, donc l'année qui précède les fameux printemps arabes, la gendarmerie nationale avait fait un communiqué en disant qu'elle avait été intervenue plus de 10 000 fois pour des manifestations locales, des sit-ins, des émeutes, etc. Donc ça couvait déjà depuis très longtemps. Donc en tant que tel, c'est pas inattendu, c'est l'ampleur dans l'espace et en termes de mobilisation qui, moi, me surprend un peu plus.
Peut-être, en fait, au début, il y a eu manipulation, mais après, ça a échappé au service, parce que ça répondait à une insatisfaction profonde de la société qui rejetait ce système, qui voyait ça, ce cinquième mandat, comme une attentatoire à l'honneur, quelque chose d'attentatoire à l'honneur. Et il y a aussi un rejet du système, un rejet de la corruption. Les gens en ont assez de voir leurs enfants partir à l'étranger, de ne plus pouvoir vivre dans leur pays dans des conditions normales, alors que c'est un pays qui est très riche. Il y a aussi la crise économique aussi a aussi joué dans cette insatisfaction. En fait, on a dit en 2011, c'est vrai que l'Algérie n'a pas participé au printemps arabe, mais il y avait eu des transferts sociaux très importants pour éteindre la contestation. Là, il se trouve que les réserves sont moins importantes, il y a moins de transferts sociaux, donc ça a joué aussi pour expliquer l'ampleur de la contestation. Mais il y a aussi, c'est vrai, après, la société s'est mise en ébullition, il y a aussi une dynamique populaire que finalement ça a échappé au contrôle peut-être des services, si cette hypothèse, parce que ce n'est qu'une hypothèse, se vérifie, les historiens se pencheront là-dessus. Hein, moi, nous sommes au cœur d'une histoire qui est en train de s'écrire, donc on ne peut émettre à ce stade que des hypothèses, mais si, il faudra, les historiens devront se pencher sur cette question.
Selim, par rapport à votre étude sur les phénomènes migratoires en Algérie, donc hein, que ce soit les subsahariens qui viennent et s'installent en Algérie, ou les jeunes, je ne sais pas s'ils sont tous jeunes, mais enfin bon, les haragas algériens qui partent en Europe. Donc on va plutôt s'intéresser à cette partie-là, parce qu'on a beaucoup dit que c'était la jeunesse qui était allée dans la rue, une jeunesse qui était en fait passée du désespoir, on va dire, à la politique.
Alors la Harga, effectivement, alors elle a déjà quantitativement, elle a jamais eu une ampleur comparable, par exemple, à l'émigration même clandestine des Marocains, ne serait-ce que quantitativement. Ça commence vers 2004-2006 à l'ouest du côté d'Oran, puis ensuite ça se développe aussi notamment à l'est pour aller vers la Sardaigne. C'est vraiment une manifestation de la rupture de l'unanimisme officiel. C'est une façon de dire clairement, moi je veux plus vivre ici, quitte à risquer ma vie. Hein, le fameux proverbe, hein, mieux vaut être mangé par les poissons que par les vers. Donc c'était déjà, c'est beaucoup moins, comme ça a été dit, on a utilisé les imams pour condamner la Harga en l'assimilant au suicide. C'est au contraire une pulsion de vie, beaucoup plus qu'une pulsion de mort. Il y a les travaux de Farida Souyar aussi, qui expliquent bien qu'il y a un rapport entre contestation politique et émigration. C'est une forme de contestation un peu passive, si vous voulez. Donc ça aussi, c'était un signe avant-coureur. Alors sur le profil des Haraga, il est quand même très varié. Bien sûr, c'est majoritairement des jeunes hommes. Alors moi, j'ai travaillé surtout dans des quartiers populaires, hein, comme Sidi Salem à Annaba. Donc c'est des catégories particulières touchées par le chômage, déscolarisées, qui vivent dans des habitats précaires, suroccupés, etc. Mais il y a eu de tout dans les Haraga. Il y a beaucoup de femmes, plus en plus de femmes, et des personnes handicapées qui partaient, des femmes qui partaient avec des enfants très jeunes, Et même des personnes plus âgées. Une fois, j'avais lu dans la presse hein, une personne originaire de Constantine qui s'était fait arrêter, qui avait 70 ans. Donc voilà, ça reflétait quand même l'état total de délégitimation de la scène politique officielle et du jeu politique officiel par cette pratique du départ. Alors j'ajouterais une chose, c'est aussi sur l'émigration transsaharienne. Alors là, c'est un rôle beaucoup plus indirect, mais je pense qu'elles existent depuis très longtemps. Je pense qu'elles ont permis aussi de redéfinir de façon implicite le rapport à l'altérité, et donc amener aussi à se redéfinir soi-même pour redéfinir son rapport à l'altérité. Et ça a amené peut-être une sorte de réflexion sous-marine ou de lame de fond autour de finalement qu'est-ce qu'on veut être, nous, alors par rapport à l'Afrique ici, par rapport à l'Europe, etc. Donc ça aussi, ça a pu être un élément assez indirect.
Mais dans quel sens? Parce qu'il y a eu aussi une flambée de racisme à l'égard des subsahariens. Donc,
alors, tout à fait, la xénophobie, il y a eu énormément de faits divers. Dernièrement encore, oui. Un étudiant angolais ou ougandais, je crois. Qui est mort par agression, mais il n'est pas si partagé que ça. Moi, j'ai quand même pu voir hein, des associations locales ou des personnes individuelles qui allaient aider les migrants subsahariens. Après, il y a eu un changement dans l'immigration
transsaharienne. Non, mais par rapport à la question identitaire, justement d'être face à cette altérité-là, cette altérité africaine, même si je pense pas en effet hein, que tout le monde soit xénophobe, mais qu'est-ce que du coup ça a changé dans l'image que les Algériens ont d'eux-mêmes? Est-ce que ça les a ramenés, ça les a enracinés dans l'Afrique, ou au contraire ils ont voulu échapper à cette altérité-là?
Non, je pense justement ça les a ramenés à une certaine africanité de l'Algérie qui a été quand même largement oubliée depuis les premiers temps de l'indépendance. Mais bon, là, c'est vraiment quelque chose de très indirect. Mais ça, à mon avis, ça a amené, alors surtout depuis 2013 avec les migrations d'Irène, ça a amené à se poser la question de comment on se positionne par rapport à ces personnes.
Et alors, j'ai lu aussi que depuis le 22 février, il n'y avait plus de harga, qu'il n'y avait plus de...
Alors,
de gens. C'est qui? Haddad.
Voilà. Non, alors je sais pas, mais ça m'étonnerait pas spécifiquement non plus que ça. De toute façon, ça fait déjà plusieurs années que ça avait diminué quand même. Il y avait une sécurisation des côtes, y compris avec du côté italien notamment, du côté espagnol aussi, et par la marine algérienne. Donc ça avait déjà relativement diminué, même si en 2017 ça avait remonté, sans qu'on puisse trop vraiment l'expliquer.
Oui, puis on a vu aussi des pancartes dans les manifestations où les gens disaient on veut rester ici, ouais. Quoi. Notamment quand Marine Le Pen a dit qu'elle voulait couper les visas, tu peux les garder, on n'en veut pas, on a d'autres choses à faire. Peut-être qu'on peut passer...
Juste sur le point, en fait, ce qui explique aussi pourquoi l'Algérie est en retrait sur la scène africaine, c'est parce que le président ne pouvait plus faire aussi de retenir de relations diplomatiques, faire des tournées en Afrique subsaharienne. Et par exemple, le Maroc fait une offensive diplomatique assez forte, avec une diplomatie économique, une diplomatie religieuse assez forte, tournée vers l'Afrique subsaharienne, et l'Algérie était clairement en retrait, même par rapport aux Tunisiens. Mais cela dit, ça, c'est quelque chose qu'on observe, ce racisme contre les migrants subsahariens, c'est quelque chose qu'on observe malheureusement dans tous les pays du Maghreb. En Tunisie, par exemple, il y a eu un fait divers assez triste, l'assassinat du président de l'association qui est mort, d'une victime de la petite délinquance dans un quartier populaire de Tunis. Le président de l'association des Ivoiriens de Tunisie, ce qui a donné lieu à des manifestations à Tunis. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le Maghreb. Donc il faudrait s'intéresser à l'origine de ces préjugés, de ces stéréotypes, pour les déconstruire et les dénoncer.
Tout à fait. Alors peut-être qu'on peut passer à la deuxième séquence sur les transitions possibles. Donc comme je disais tout à l'heure, en tout cas à court terme, la question aujourd'hui c'est de savoir est-ce que on peut faire confiance à l'armée pour encadrer cette transition ou non, et partir tout de suite sur un scénario, sortir des scénarios constitutionnels. Fixer une instance présidentielle avec des personnalités consensuelles. Et quand je dis ça, on ne sait pas quel est le processus, hein, parce que comme ça passera pas par des élections, faudrait qu'il y ait une désignation. Donc on parle beaucoup de Bouchachi, des droits de l'homme, ou d'une ancienne politique qui était connue quand même, hein, du jeu politique, parce qu'elle a aussi travaillé avec Bouteflika, Zoubida Hassoul. Enfin, il y a plusieurs personnalités qui sont acceptées, on va dire, par le mouvement populaire, mais voilà, on ne sait pas comment cette instance présidentielle pourrait être désignée et complètement acceptée. Et à partir de là, il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce que on va on sort complètement du scénario constitutionnel, donc on va pas vers une présidentielle, mais on va vers une législative. Et là aussi, il y a encore tout à construire. Est-ce qu'on reste dans le cadre des partis existants qui sont quand même très faibles et très peu soutenus par la population. Donc est-ce que là aussi on rebrasse tout. Moi j'ai rencontré plusieurs personnes à Alger qui vont dans les 48 wilaya parce qu'on essaye de voir les nouvelles figures qui pourraient émerger. Donc il y a un des scénarios, c'est qu'il y ait trois personnalités dans chaque wilaya, en faisant attention de prendre des jeunes, des juristes et des personnalités politiques. Donc il y aurait donc trois personnalités par wilaya, et là on créerait une assemblée qui pourrait servir pour la transition. Mais tout ça, ce sont des hypothèses, et on ne sait pas exactement par quel mécano ça pourrait advenir. Mais donc à court terme, on parle de ça en Algérie, mais je crois que Emmanuel, toi tu voulais présenter plusieurs scénarios.
Oui, ces scénarios, en fait, cette prospective, en fait, il y a mon préfacier, en fait, de mon ouvrage, Les lieux de mémoire de la guerre d'indépendance algérienne, dans un article d'El Watan, justement, Aïssa Kadri, avait déjà en fait recensé des scénarios possibles de manière un petit peu anticipée. Donc je ne fais un peu que reprendre certaines analyses qui me paraissent pertinentes. Et donc il distinguait, et que je vais compléter par à la lumière de l'actualité d'hier. Bon, le scénario syrien, on en a parlé, il semble être évacué pour le moment, mais il peut y avoir des retours.
Donc ça serait quoi le scénario
syrien, c'est ou libyen, si vous voulez, c'est la guerre civile, c'est-à-dire la guerre civile, en fait, l'armée qui éclate en deux groupes, deux factions, comme en Libye, où vous avez les pro-Haftar contre... en Libye, c'est encore pire que cela, parce que vous avez 10 armées privées. Et, en fait, on présente souvent dans l'actualité... En Libye, on vous dit qu'il y a deux groupes, mais en fait, il y a 10 factions armées, 10 seigneurs de la guerre, qui sont avec ingérence de puissances extérieures qui viennent déstabiliser le pays. Donc ça, c'est la catastrophe, quoi. Franchement, on n'en sort plus. Vous avez, bon, alors le scénario égyptien...
Donc c'est pour ça qu'on disait, vu qu'hier, il y a eu réunification des différents services, de l'armée et des services, on peut imaginer qu'on s'éloigne de ce risque-là.
On en est sorti quand même, grâce, il faut le dire, au président Zeroual. Et aussi à Gaït Salah, tout de suite ils ont arrêté, alors c'est peut-être autoritaire comme mise en résidence surveillée, de Saïd Bouteflika, le président Bouteflika, je ne pense pas qu'il ait à voir quelque chose là-dedans, bon, parce qu'il y a aussi une instrumentalisation de sa situation médicale, hein. On peut parler, je pense, d'abus de faiblesse, la manière dont on exhibe ce vieil homme quasiment en robe de pénitent me paraît assez choquante, en gandoura, enfin bon, il y a de l'abus de faiblesse. Il y a le scénario égyptien, c'est-à-dire en fait l'armée qui dit maintenant c'est la fin de la récréation, vous réveillez un matin, vous avez des chars partout, donc rentrez chez vous les enfants. Ça, c'est encore possible. Il y a le scénario turc qui serait une sorte de compromis entre des islamistes modérés ou institutionnels, je pense au Hamas, au MSP de Macri, qui ferait un compromis avec les militaires, mais c'est peu probable parce qu'il a, je ne pense pas qu'il ait l'envergure d'un Erdogan. Et Erdogan a su aussi contrôler l'armée en organisant un certain nombre de procès contre les officiers turcs. Et puis il a eu face à lui une tentative de coup d'État. Donc il y a un autoritarisme rampant en Turquie. Je ne le pense pas parce qu'il y a aussi la mémoire de la guerre civile et je ne pense pas que la société accepte cela. Et le scénario qui est peut-être le plus intéressant, ce serait un scénario militaro-civil ou militaro-démocrate, parvenir à une forme de démocratisation pactée, ce qui semble être le cas, avec parvenir à des compromis entre les militaires, parce qu'il y a quand même des modérés, hein, il n'y a pas que des éradicateurs dans l'armée algérienne. Ce n'est pas la même armée qu'en 1962. En 1962, ceux qui prenaient le pouvoir, malheureusement, à cause du colonialisme, n'avaient peut-être pas fait des grandes études. Là, les militaires algériens, il y en a beaucoup chez les jeunes officiers qui ont des formations très solides, qui ont un niveau, vous voyez, ce sont des gens qui sont au fait de la politique, qui ont une formation très solide, et faire un compromis, une démocratisation. Pour qu'une transition marche bien, il faut que les sortants, si vous voulez, pour passer à un état civil, ne perdent pas trop. Il faut parvenir à une forme de compromis avec les responsables, les porte-parole du mouvement citoyen qui émerge, des hommes et des femmes, se mettre d'accord. Alors il y a peut-être aussi des choses, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'élites aussi algériennes qui sont dans la diaspora et qui sont pas présentes, même si elles manifestent, enfin à Paris on a aussi des manifestations, mais elles sont pas présentes en Algérie. Donc parvenir à des... Il y a aussi le problème aussi que pour organiser des élections libres, par exemple en Tunisie, il y avait la Tunisie était un pays beaucoup plus ouvert sur l'étranger. Donc vous avez beaucoup de fondations étrangères, notamment des partis politiques allemands, ce qu'on appelle des Stiftung, ou des ONG étrangères, qui viennent donner une expertise pour organiser des élections libres. Parce que pour l'instant, il n'y a pas des élections libres. Il faut aussi des observateurs internationaux pour qu'il y ait une transition. La première chose, c'est organiser des élections où on construit un état de droit. D'où l'importance de ces militants de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. En sachant qu'il y a la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, les militants des droits de l'homme sont souvent liés au mouvement culturel berbère. Alors qu'en Tunisie ou au Maroc, ils sont plutôt liés à la gauche militante tunisienne, au mouvement Perspective. Donc il y a une histoire des Ligues des droits de l'homme qui est différente en Algérie qu'en Tunisie ou au Maroc. Donc il y a un certain nombre quand même d'acteurs qui émergent, hein, des acteurs des avocats, les juges, les magistrats, qui sont à même de participer à ce processus de transition.
Oui. Après, la demande quand même profonde qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y ait de nouvelles têtes. Des gens qui n'ont rien à voir avec le régime, et même l'opposition, elle est pas forcément très crédible chez les gens. Donc, c'est vrai que dans l'attente, quand même, l'attente générale, c'est qu'il y ait une transition assez lente pour que en fait, la société civile ait le temps de s'organiser pour que émergent de nouvelles têtes et qu'ils soient légitimes, parce que sans passé politique.
Ben, le mouvement citoyen aussi, il a une méfiance à l'égard des porte-parole, parce qu'ils savent justement qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont pu être récupérés par le pouvoir. Si vous voulez, la gauche est très divisée. Le FFS, par exemple, c'est un parti qui était, à mon sens, très intéressant, parce que porteur d'une demande de citoyenneté économique et sociale, ce qui est quand même important, qu'il y a eu des divisions sur les questions, est-ce qu'on participe ou pas aux élections, est-ce qu'on boycotte ou pas. Donc tout ceci a divisé le mouvement, et aussi parce qu'il y avait aussi un dirigeant qui... Aït Ahmed, qui avait une très forte personnalité, qui avait une légitimité historique incontestable, et bon, il dominait un peu le parti, et ça n'a pas permis l'émergence d'autres figures, même si on parle aujourd'hui de Karim Tabou, mais il n'est pas dans le FFS, il a dû quitter, il a créé son propre l'UDS. Donc vous voyez, il y a eu des divisions.
Oui, bah lui, ça fait vraiment partie aussi des noms qu'on entend beaucoup, Bouchachi, Azoul... Alors, Salim Chena, est-ce que pour vous aussi le scénario Hawa est le plus probable pour gérer la transition?
Oui, alors, une chose est sûre, c'est vrai que les théories de sciences politiques sur les transitions démocratiques, elles insistent tout souvent, même s'il y a des différences, sur la nécessité de faire un compromis entre anciennes élites autoritaires et nouvelles élites démocratiques. Et ça, c'est vrai que les exemples notent beaucoup les travaux en Amérique latine notamment.
Oui, tout à fait.
On peut parler peut-être de la Corée du Sud aussi, qui se sont passés entre guillemets en douceur. C'est le Chili en Amérique latine, hein, où il y a une transmission du pouvoir assez progressive. Il y a l'exemple espagnol aussi, hein, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors moi, je voudrais plus souligner les différentes propositions qu'on voit émerger dans la presse, dans les discours des différents acteurs. je vois quatre pistes un peu institutionnelles qui semblent se dessiner. Pour l'instant, il n'y en a aucune dont on ne sait pas vers laquelle on se dirige. Celle qui me semble intéressante, c'est de former une constituante à partir d'assemblées primaires, même pas forcément, on peut même commencer au niveau de la Daïra, avant d'arriver au niveau de la Wilaya, et qui envoie des délégués au niveau national chargés de rédiger une nouvelle constitution. Ça a un avantage, c'est que ça répond aux attentes des manifestants, qui est de retrouver la souveraineté des citoyens. Les élections étaient très peu crédibles. Il faut bien voir que les dernières élections législatives, c'était le RCD qui l'avait dit, le taux de participation réel n'avait pas dépassé 15%. Donc le fait de ne pas aller voter, c'était déjà un signe des citoyens. Donc ça redonnerait la souveraineté aux citoyens et ça permettrait d'avoir une institution qui serait véritablement et entièrement légitime.
Et là, il faut quoi ? Il faut un an ?
Voilà. Effectivement, il faut organiser des élections, comme ça a été dit, ça ne se décrète pas comme ça, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est peut-être le plus ambitieux des scénarios. Ensuite, il y a l'idée, donc, vous avez évoqué, comité exécutif transitoire de personnalités indépendantes, une sorte de HCE démocratique, au comité d'État démocratique, qui gérerait aussi et qui accompagnerait des réformes et l'élaboration d'une constitution. Ensuite, il y a ce qu'on commence à appeler la solution extra-constitutionnelle.
Avec la désignation d'un gouvernement de technocrates pour gérer les affaires d'État en attendant.
Une forme de comité exécutif
donc
indépendant.
Donc ça, on imagine 6-8 mois pour organiser.
Quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Voilà. Il faut qui va les nommer, quelle personnalité, combien de membres, etc. Tout ça, c'est compliqué. Donc la troisième que je verrai, c'est la solution extra-constitutionnelle, c'est-à-dire faire un comité exécutif de transition, mais qui émanerait du pouvoir, qui, d'après le Figaro ce matin, serait un peu le choix de Médienne. Donc, qu'est-ce qui ferait ce comité-là ? Est-ce qu'il ferait une nouvelle constitution ? Est-ce qu'il ferait une sorte de conférence nationale dont on ne connaît pas très bien les contours, ni le mandat et la désignation ? Donc voilà une chose, mais ça, c'est la transition gérée par une partie du pouvoir. Il y a la solution constitutionnelle, qui est celle qui semble prônée par Gaïd Salah, qui est d'aller vers des élections présidentielles. Et ensuite, le nouveau président gérerait la transition. Mais là encore, dans quelle direction ? On ne sait pas véritablement, mais ce serait une solution qui respecterait les dispositions globalement de la Constitution. Quoi.
Et est-ce que vous pensez que la diplomatie française ou autre pourrait avoir un rôle dans le choix ?
Il vaudrait mieux pas.
Non, mais est-ce qu'on pourrait essayer, en tout cas est-ce qu'il y aurait un scénario qui arrangerait davantage ?
Non, le scénario qui arrange les partenaires extérieurs, c'est la stabilité.
C'est la
stabilité et les contrats commerciaux, bien sûr.
Il semblerait qu'ils ont quand même un candidat, que la France ait quand même un candidat, parce que vous me demandez ce que je regardais. Quand je vois le Monde avec en page 2 M. Bouachichi qui fait. Qui a son portrait. Bon, c'est vrai, c'est comme en Tunisie, on sait que pour les élections, le candidat de la France, c'est Youssef Chahed, c'est d'après certaines sources diplomatiques. Donc il y a des candidats qui sont soutenus par la diplomatie française. Donc il y a quand même des ingérences qui se font de manière indirecte dans le... Et en tout cas, ce monsieur, ce responsable, ce militant, il dit aussi que l'armée doit être partie prenante du processus de transition, parce qu'il a conscience, parce qu'ils ont quand même... Il y a des gros intérêts quand même économiques qui sont en jeu. Et je vois difficilement... ces acteurs à l'armée, qui est un acteur politique, mais aussi un acteur économique, je les vois pas partir, accepter de passer à un état civil du jour au lendemain, mu par l'amour du prochain ou le désir de partager la rente pétrolière. Donc ça paraît...
Dit comme ça, oui.
Voilà, donc...
N'y crois pas.
On peut, malheureusement, à moi... Mais évidemment, quand vous avez une telle pression, c'est pour ça qu'il faut... On en discutait un peu avant, mais quand il y a une telle pression de la rue, une telle effervescence populaire, une société qui est en ébullition, aucune dictature, aucun régime autoritaire ne peut la contrôler. Il est impossible.
Surtout que c'est un mouvement très pacifique.
En plus, c'est un mouvement pacifique. Mmh. Et pourquoi est-il très pacifique ? Parce qu'il y a les mémoires de la guerre civile et ils connaissent certaines réactions répressives, octobre 88, et ils savent très bien les risques qu'il y a, parce qu'on est toujours à la merci d'une manifestation qui dégénère.
Oui, et puis c'est aussi le fait des Algériens. parce qu'il y a les comités de quartier qui gèrent, et puis les gens font très attention, parce qu'ils savent très bien que s'il y a de la violence, ce sera la meilleure façon d'arrêter le mouvement. Non, vous croyez pas?
Oui.
Enfin, on n'en voit pas dans les manifs, on voit pas les flics. Ils peuvent être peut-être en civil.
Ils sont en civil, certainement.
Oui.
Mais
globalement, il n'y a pas beaucoup d'interventions. Hein. Dès qu'il y a un peu de tension, on voit les jeunes des comités de quartier arriver avec les sifflets.
Il faut savoir aussi que la police, les services de sécurité algériens ont appris à gérer les foules de manière pacifique. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter des situations comme en 2001, où il y a eu la répression du printemps noir, je crois que c'était M. Benflis qui était d'ailleurs le Premier ministre de monsieur Bouteflika à cette époque. Et il ne faut pas croire que quand il y a une décision de répression, je vous donne dans l'histoire, parce que tout ceci est caché, parce que quand on dit qu'il y a une répression, un assassinat politique entre responsables, par exemple à l'époque de Boumédienne, on impute cela à Boumédienne. Mais parfois ce sont des actions d'un clan du pouvoir qui prend la décision de réprimer. Là, en l'occurrence, je crois que c'était la gendarmerie qui était présente en Kabylie. Et après, Bouteflika a tout de suite retiré la gendarmerie. Donc il y a des fois des clans qui prennent des initiatives. Et après, celui qui est au sommet de la pyramide en assume la responsabilité. Donc ils ont quand même appris à gérer les foules, à éviter justement...
Donc vous pensez que c'est des forces secrètes de...
Non, ce n'est pas des forces secrètes, il ne faut pas rentrer dans des théories du complot et ce genre de choses. Mais il y a quand même, il y a eu des progrès qui ont été faits pour éviter justement que la situation leur échappe. Je pense que les acteurs raisonnables de l'armée ou des services de sécurité ne veulent pas...
Sécurisent les cortèges.
Ne veulent pas en tout cas que ça dégénère. Ouais. Voilà.
Oui.
De même que quand il y a des manifestations des Gilets jaunes, tout le monde sait très bien s'il y a un jeune qui est tué ou un jeune lycéen qui est tué pendant une manifestation lycéenne, pour le pouvoir, c'est la catastrophe.
Il faudrait leur demander de venir peut-être à Paris aider pour les...
Oui, non, j'abonderai un peu dans ce sens. Hein. C'est effectivement l'attitude et le choix des manifestants et l'auto-organisation des manifestants. C'est aussi l'attitude des forces de l'ordre. Hein. Dès le début des toutes premières manifestations sur Algérie Part, dont on peut penser beaucoup de choses, il rapportait déjà qu'il y avait eu des consignes pour faire très attention. Parce que c'est sûr que s'il y a une bavure, cette fois, ça devient incontrôlé.
Et en 1988 et en 2001, on n'avait pas les réseaux sociaux. Là, maintenant, vous avez un dictateur ne peut plus massacrer impunément sa population sans que ça se sache. Et donc, il y a un effet boomerang par rapport à l'opinion publique internationale. Effet boule de neige et effet boule de boomerang qui amplifie les dynamiques populaires.
Ça, c'est sûr. On va peut-être passer maintenant la discussion avec vous.